et bienvenue dans À votre avis, votre émission quotidienne de débat sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Ce soir, nous abordons un sujet difficile, les mutilations sexuelles féminines, et ce, à l'occasion de la Journée mondiale contre l'excision. Aujourd'hui, ce sont plus de 3 millions de filles qui sont excisées chaque année. Alors, quelle est la situation dans votre pays? Des lois ont-elles été mises en place et sont-elles suivies? Pensez-vous que les traditions doivent être respectées ou pensez-vous plutôt que ces pratiques doivent être supprimées? C'est le sujet de la discussion du jour et nous vous invitons à venir en discuter avec nous en direct. Et pour cela, un seul numéro de téléphone, le 001 202 205 26 33. Je répète, le 001 202 205 26 33. Vous nous laissez vos coordonnées et bien entendu, on vous rappelle. Donc, pour démarrer, nous allons ouvrir ce débat avec Fatoumata Sabasamake. Allô, Madame Samake, est-ce que vous nous entendez?
Oui.
Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous pour ce sujet à l'occasion donc de cette journée mondiale contre l'excision. Peut-être pour démarrer. Donc vous êtes à Bamako, au Mali?
Oui, je suis à Bamako.
Voilà, un pays où le taux d'excision tourne, vous allez évidemment me corriger, mais dans les 90%.
Exactement, oui.
Et donc, je voulais un petit peu votre sentiment. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Bamako à l'occasion de la Journée mondiale contre l'excision?
Alors, à Bamako, ici, depuis hier, nous avons commencé les activités avec le FUNIAP et d'autres structures qui sont dans le domaine de la santé, de la reproduction, etc. Donc, il y a eu une activité qui était composée de 3 panels de discussion sur la thématique qui est l'excision. On avait des leaders religieux, on avait aussi des femmes de loi, on avait aussi des sages-femmes et gynécologues qui ont communiqué sur les inconvénients de l'excision et aussi des méthodes qu'ils mettent en place pour essayer de sensibiliser la population afin d'arrêter de pratiquer ces fléaux-là.
Alors, qu'ont dit les chefs religieux?
Comment?
Vous me dites, il y avait des chefs religieux qui étaient présents.
Les leaders, oui.
Les leaders religieux. Qu'ont-ils dit?
Alors, le leader religieux que nous avons invité, c'est l'imam Traoré. Il est membre du Haut Conseil national. Le Haut Conseil national islamique aussi, il est membre. Donc, il n'est pas totalement pour l'excision, parce que je cite ce qu'il a dit. Il a dit que prendre la décision d'abolir l'excision n'incombe pas les religieux. C'est aux décideurs de décider et que c'est aux médecins aussi de prouver que vraiment l'excision est nuisible à la santé de la femme. Et si c'est prouvé médicalement que c'est vraiment nuisible à la santé de la personne, c'est que il faut laisser tomber cette pratique-là. C'est sa philosophie, et parce qu'il a donné l'exemple sur les gens, par exemple dans la région musulmane, on jeûne. Donc si tu n'es pas apte à jeûner, on te pardonne le fait que tu es malade, souffrant et tu ne peux pas jeûner. Donc s'il y a cette possibilité-là qui est prouvée, que parce qu'une personne qui meurt en faisant un acte et qui va à l'encontre des dits, tu es considéré comme un suicidaire, et un suicidaire en islam, il va directement en enfer. Donc si l'excision est un fait qui peut pousser une personne à la suicide, ou bien qui peut même être nuisible à la vie d'une personne, donc selon lui, l'excision doit être quelque chose qui doit être arrêté. Alors, les leaders religieux, leur avis est partagé. Chacun a son avis. Donc c'est ce qu'il a précisé aussi. Il a dit que certains sont sont divisés par pour, d'autres sont contre. Voilà.
Très bien. Est-ce que, parce qu'on est rentré tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler que ce que vous faites et pour quelle entité vous travaillez?
Alors, moi, je suis blogueuse dans le domaine de la santé et de la reproduction. J'ai un blog que j'anime avec des articles. Je suis également consultante au FINEAP, le Fonds des Nations Unies pour la Population.
Très bien. Merci beaucoup, Fatoumata. Encore une question, on le sait, hein, bien sûr, l'importance des leaders religieux, hein, et des messages qu'ils peuvent faire passer. Je vais vous lire, Fatoumata, quelques... Donc, on avait bien entendu posé la question à nos auditeurs sur notre page Facebook. Je vais vous lire quelques messages que des auditeurs nous ont laissés et vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Pour Barry Ousmane, pour lui, seule la sensibilisation peut mettre fin à cette pratique, car c'est un phénomène très flou en milieu traditionnel africain. Alors, moi, je vais enrichir un petit peu ce commentaire. Les campagnes de sensibilisation, ça fait quand même des années, voire des dizaines d'années qu'elles existent. Pourquoi, finalement, il y a si peu de progrès, à votre avis?
Alors, à mon avis, moi, il y a si peu de progrès parce que ça dépasse un certain niveau auquel les gens avaient estimé au fait. Parce que c'est ancestral, c'est religieux et c'est culturel en même temps. Au fait, la société même tournait autour de ça. C'est des pratiques qui sont en un mot mystifiées. C'est profond. Donc, si c'est profond, une simple sensibilisation, parce que c'est des personnes qui sont nées avec cette idéologie-là, qui ont grandi avec cette idéologie-là. Et donc, il n'est pas facile de les convaincre directement comme ça. C'est petit à petit que ça va venir et je pense que ça commence à faire un peu effet. S'il y a tout ce bruit-là, je pense que la sensibilisation joue assez un rôle et il faut juste renforcer cette sensibilisation-là pour un changement de mentalité.
Alors, nous avions quelqu'un qui nous avait laissé un message du Mali. Malheureusement, il n'est pas disponible pour être en direct avec nous. Donc, Monsieur Kouné Kafougouna qui nous dit « Est-on musulman, c'est obligatoirement qu'on le ferait, merci, depuis Bamako. » Donc, est-ce que c'est obligatoire, quand on est musulman, d'être excisé pour une femme, de faire exciser sa petite fille quand on est un père ou une mère?
Alors, je ne suis pas totalement apte à répondre ça concrètement, mais d'après le panel que j'ai suivi hier, d'après les avis de certains leaders religieux que j'ai eu à approcher, ils disent qu'il n'est écrit nulle part dans le Coran qu'il est obligatoire d'exciser une fille.
Très bien, d'accord.
Il n'est écrit nulle part dans le Coran qu'il est obligatoire d'exciser une fille. Ça, tout le monde peut le vérifier.
D'accord.
Il n'est écrit nulle part.
Merci beaucoup, Fatoumata. Vous restez avec nous. Nous avons également Marie-Jeanne Abega avec nous au téléphone. Allô, Marie-Jeanne.
Oui, bonsoir, la Voix d'Amérique.
Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire... alors, vous nous appelez d'où? Allô, Marie-Jeanne? Ah, malheureusement, je crois qu'on a été coupé. Ah, malheureusement, les lignes de téléphone nous ont lâchés. Je vais revenir donc avec Fatoumata. Fatoumata, est-ce que vous êtes toujours là?
Oui, je suis là.
Très bien, très bien. On va essayer de rappeler Marie-Jeanne. Alors, je vais continuer à vous lire des réactions qu'on a eues sur le site, sur la page Facebook de VOA Afrique. Donc, par exemple, pour Alphonse Mbouaki, qu'on aura peut-être en direct tout à l'heure, lui s'interrogeait et s'inquiétait du fait des instruments non stérilisés qui étaient utilisés pour donc couper ses organes et qui pouvaient introduire des maladies extrêmement graves ou des hémorragies. Il y a très régulièrement comme ça des décès. Quels étaient le message des médecins dans votre panel, des médecins ou des professionnels de santé qui étaient là?
Alors, le message des personnels de santé qui étaient là, on était avec précisément Mariam de l'hôpital du quartier Mali, elle est gynécologue. Donc, elle a dit que ces pratiques se font dans des conditions vraiment déplorables. Il n'y a aucune hygiène sanitaire. Souvent, c'est fait dans les toilettes avec soit des lames ou des couteaux, ou même on n'utilise même pas de ciseaux, il n'y a pas de lavage de mains, il n'y a pas de gants stérilisés ni rien. L'acte se fait souvent même dans les villages reculés, ça se fait avec, on le fait juste avec des tiges de mil. Elle était étonnée avec des tiges de mil, on excisait une fille avec des tiges de mil dans des conditions pas possibles, et après on met juste de la boue sur la plaie. Ça, il n'y a aucune condition hygiénique et sanitaire et ça peut même engendrer des infections après l'excision et tout. D'accord. Donc les conditions sont déplorables également.
Merci Fatoumata. Alors, nous avons Brahima Doumbia qui nous a appelé de Bamako également, je crois. Allô Brahima?
Bonsoir à tous, je vous appelle depuis Sikasso au Mali.
Ah, Sikasso au Mali, très bien. Alors Brahima, vous nous avez laissé vos coordonnées sur la page Facebook. Comme vous l'avez entendu, nous avons Fatoumata Saba Samake qui est avec nous. Alors dites-nous pourquoi vous vouliez témoigner, vous, en tant qu'homme.
Je veux témoigner parce que la femme, c'est celle qui donne vie. Et quand on voit ce grand nombre de personnes aujourd'hui, je pense que c'est le fruit, c'est vrai, de l'homme et de la femme, mais la femme quand même, j'aimerais plus insister. Et la stérilité ou bien la stérilisation quand même, comme certains le disent, je pense que ces produits ou bien ces méthodes qui sont là en place, je suis un peu contre de mon point de vue, puisque la femme doit procréer, et quand elle procrée, les enfants qu'elle met au monde, c'est vrai, il y a certains qui sont chanceux, certains qui ne sont pas chanceux, mais il faut quand même laisser le libre, cette chance-là à toutes les femmes. De choisir, en quelque sorte, ouais, d'être libre.
Alors c'est vrai que ça provoque ça peut provoquer des problèmes de santé, mais ça n'empêche pas les femmes, l'excision n'empêche pas les femmes de procréer, hein, Brahima?
Effectivement, l'excision n'empêche pas une femme de procréer. Et puis, quand on regarde ici en Afrique, l'excision quand même apporte beaucoup de bienfaits dans le couple. Et quand aujourd'hui, dans certaines sociétés ou dans certains contrées, quand une fille n'est pas excisée, certains individus, je ne dirais pas mal intentionnés, mais certains individus ne la préfèrent pas, préfère une fille excisée qu'une non excisée. Ça, c'est les préjugés, ça, c'est un point de vue.
Vous m'avez parlé de bienfaits. Est-ce que vous pourriez essayer de m'expliquer quels seraient ces bienfaits d'être excisée?
Être excisée...
Et Fatoumata, s'il vous plaît, vous pouvez répondre à tout moment, hein?
Ok. Être excisé, quand même, je pense que cela a beaucoup de bienfaits, surtout psychologiques. Et quand vous voyez que votre mère, votre grand-mère, elle a suivi cette pratique-là, vous aussi, que vous suivez cette même pratique-là, cette même tradition, psychologiquement, ça vous met dans une famille qui se sent harmonieuse. C'est des questions psychologiques d'abord, mais sur le plan de la santé, quand même, c'est même, il y a beaucoup, il y a des conséquences, c'est vrai, il y a la perte du sang ou autre, mais je pense que c'est un mari quand même qui se sent plus à l'aise avec une femme.
D'accord, donc c'est pour voilà. Que votre mari se sente bien. Fatoumata, vous voulez répondre ?
Oui, j'aimerais répondre. Alors, vous voyez que c'est une idéologie de la population qui a été inculquée par les traditions et la société. Vous voyez le poids de la société, c'est au vu des autres que les gens continuent à exercer cette pratique, parce que quand une fille n'est pas excisée dans une famille, on indexe la personne en disant que la personne n'est pas excisée, donc la personne peut tendre vers la débauche, ou bien la fille n'est pas éduquée. Parce que avant, quand on le faisait à un certain âge, et les filles étaient avec une vieille qui leur donnait des conseils, qui leur disait comment faire, comment être femme, comment se comporter en tant que femme. Mais actuellement, cela ne se fait pas. Et ça, moi, je dirais que ces conseils seulement étaient la seule avantage de l'étudiant. Mais actuellement, cela ne se fait plus. Alors, pourquoi continuer? On peut éduquer une fille sans pourtant passer par cette pratique vraiment criminelle, moi je pense.
D'accord.
Donc,
alors, nous sommes...
je ne vois pas davantage...
Ni de bienfait, bien sûr.
Oui, voilà.
Ou de partager, Monsieur Doumbia disait partager, être la même que vos mères et grand-mères, de partager quand même ces moments qui sont extrêmement douloureux. Il faut aussi le rappeler. Nous avons Ben Benoît qui nous a appelé de Kinshasa en RDC. Allô.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les invités de la radio du monde. Oui, allô.
Dites-moi, monsieur Benoît, bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Dites-moi.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, oui, je vous écoute.
Alors, dites-moi pourquoi vous nous appelez. Qu'est-ce que vous vouliez apporter au débat de ce jour?
Franchement, par rapport aux thématiques du jour, juste à tout ce que nous avons célébré par rapport à MGS, ça nous inquiète, on s'en fait mal au cœur, parce que la mutilation des génitales juste féminines, ça me fait mal en RDC. La faute est comble, juste si c'est pour le monde, je peux vraiment peut-être dire oui merci, mais en RDC, ça arrive par rapport à la faute de notre gouvernement. Le gouvernement n'a pas un suivi de tout ce qui se passe en RDC.
D'accord. Pour vous, le problème, excusez-moi, monsieur Benoît, la ligne, et on vous entend assez mal. Donc, ce que vous disiez, c'est qu'en RDC, la situation était également grave et que c'était le gouvernement qui n'assurait pas de suivi de ce problème. Nous avons également Alphonse Vincent Adama. Allô, allô. Monsieur Adama, vous nous entendez? Allô? Allô, allô, monsieur Mbouaki, vous nous entendez? Alors, il s'agit d'Alphonse Mbouaki. Nous avons probablement également un Vincent Adama quelque part. Allô? Allô, allô? Est-ce que vous nous entendez? Alors, nous avons Vincent Adama qui est au Bénin. Allô?
Oui, bonsoir, chère Julissa Raka.
Oui, bonsoir. Alors, vous nous avez joint donc à l'occasion de ce débat autour des mutilations sexuelles féminines et de cette journée mondiale contre l'excision. Dites-nous, pourquoi avez-vous souhaité participer?
Oui, je souhaiterais participer pour attirer à l'attention de ceux qui ont en train de pratiquer cette pratique criminelle et cruelle que je vais commenter dans mon commentaire, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, cette pratique a des répercussions sur nos femmes et aussi nos sœurs. Lors de l'accouchement, elles sentent de la douleur. Lors des rapports sexuels, elles sentent aussi de la douleur. Elles n'ont même pas envie de ces besoins génitaux qui est naturel. Et aussi, la stérilité aussi fait aussi son rage aussi dans la vie. Je trouve que c'est une punition et aussi c'est une privatisation de la vie sexuelle du côté comme besoin, quoi. C'est ce qui va tirer aussi à l'attention de ceux qui pratiquent cette ignominie-là. Et aussi, je vais demander à écouter les ONG. Et encore, je vais leur dire que ce n'est pas une bonne chose à le faire, parce qu'on ne peut pas continuer à respecter cette pratique comme, disons, la tradition ou bien. Et quoi, je ne sais pas ce que ça signifie également. Donc, couper les clitoris chez la femme, c'est aussi couper, c'est comme couper les testicules chez l'homme. Est-ce que je comprends? Parce que ça, la femme n'est pas à avoir envie. Et c'est pas une bonne chose.
Oui, tout à fait.
Surtout à ceux qui assistent, au peuple qui continue de pratiquer cette pratique criminelle.
Merci beaucoup, Vincent Adama. Alors, nous avons également Thierry Achis qui nous appelle depuis Bujumbura. Allô, Thierry?
Oui, bonsoir, madame.
Bonsoir. Merci beaucoup de participer à cette émission. Alors, quelle est la situation au Burundi?
Écoutez, madame, chez nous, ça reste tabou parce que vous savez très bien, la femme africaine a toujours été obligée d'être silencieuse, même quand elle est maltraitée, même quand elle est vraiment agressée. Elle est obligée de se taire. Donc, pour cette raison, vraiment, ce n'est même pas parlé. On n'a jamais entendu parler de ça. Mais moi, je considère ça comme un crime, toujours comme un crime. C'est pourquoi il faut que la femme elle-même se mette debout et savoir que c'est elle qui doit combattre pour ses intérêts, pour que au moins les gens puissent comprendre que là, faire de l'exclusion, c'est juste comme vous êtes un criminel. Donc les gens qui sont là juste pour croire que c'est juste pour des raisons religieuses, pour des raisons de tradition, vraiment, il faut abandonner cette croyance. C'est une croyance que je juge toujours fausse, que je juge toujours médiocre, parce que l'exclusion, la femme, quand on enlève le clitoris, c'est presque comme on enlève. Tout à l'heure, mon ami le disait, c'est comme si on enlève le testicule chez l'homme. Donc pour moi, c'est un crime qu'il faut abandonner. Il faut aussi qu'il y ait des mesures. Les gens qui votent les lois doivent voter des lois vraiment qui doivent sanctionner les gens qui font cette pratique.
Très bien. Merci beaucoup de ce témoignage. Fatoumata, est-ce que vous êtes toujours avec nous?
Oui, je suis là.
Vous avez entendu donc les mots de Thierry Achichakié. Donc pendant longtemps, les femmes africaines étaient silencieuses, hein, obligées de se taire, et elles doivent désormais en parler. Est-ce que c'est ce que vous constatez depuis quelques années, qu'il y a de plus en plus de femmes qui prennent la parole et qui agissent contre l'excision?
Oui, je vois le constat. Moi-même, je suis la preuve ici. Donc, vraiment, les femmes, il faut que c'est un combat des femmes à 80% et des hommes, je dirais, à 20%. Il faut que, parce que c'est nous qui subissons le mal. Donc, c'est à nous de nous révolter et de dire qu'on en a marre, il faut arrêter de nous maltraiter. Donc, il est temps que les femmes se mettent debout et pour lutter contre ce fléau. Parce que c'est un autre avantage si on arrête ces actes-là.
Oui, bien sûr. Alors, nous avons un dernier auditeur qui vient d'appeler, Diara Kanyoumé. Allô, je crois que vous nous appelez du Mali.
Oui, effectivement, dans mon village natal.
Bonsoir. Alors, l'émission touche à sa fin. Dites-moi, pourquoi vous avez souhaité nous joindre?
Oui, effectivement, à mon avis, je pense que d'aujourd'hui, pour lutter contre cette fléau, c'est pas facile, parce qu'il faut imaginer depuis longtemps, nos grands-parents ou bien nos grands-mères, donc, fait au moins cette tradition. Donc, pour lutter contre cette fléau, il faut que la sensibilisation passe partout. Surtout dans les villages, je pense que même dans mon village à Soumikene, donc il y a des ONG qui viennent pour conseiller les gens par rapport à l'exclusion des femmes. Donc je pense que vraiment c'est pas facile, il faut que nous toujours on doit vraiment sensibiliser les gens pour que cette fléau doit finir, à mon avis.
Ouais. Et est-ce que ces campagnes de sensibilisation marchent donc dans votre village de Soumikene?
Oui, effectivement, je connais une femme qui est dans les ONG qu'on appelle Agnès. Donc, à chaque moment, elle vient dans nos villages pour sensibiliser. Même à côté de nos villages, il y a certains villages aussi. Elle passe partout jusqu'à quelques loin.
Très bien, merci beaucoup. C'est, je n'ai que quelques secondes pour remercier Joselle Morissin et Michel Joseph. Claire Morin-Gibourg était avec vous pour cette émission. Restez avec nous tout de suite. Le Monde Aujourd'hui, présenté par Eric Manirakiza. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.